Du coup, moi, si, donc, je m'appelle Raphaël Renaud, je me suis déjà un peu présenté. Donc, je vais commencer par lire ma petite présentation où, en fait, j'essaye juste de parler un petit peu des réflexions écologiques qu'il y a pu avoir en littérature et en quoi la science-fiction peut s'inscrire là-dedans, et notamment avec les romans d'anticipation, tout ça peut proposer pas forcément des solutions, mais du moins des pistes de réflexion sur la sous-optimalité comme une possible solution face à pas mal d'enjeux sociaux et politiques. Donc on l'a vu avec les exposés précédents, la solution de la sous-optimalité peut s'imposer dans de nombreux domaines que la littérature peut nous aider à appréhender. Et alors depuis plusieurs années, plusieurs domaines littéraires s'intéressent aux causes et surtout aux conséquences possibles de l'entrée dans l'ère anthropocénique en général. Et donc ces domaines littéraires peuvent être appelés l'éco-poétique ou l'éco-critique quand ça s'intéresse à la critique des textes d'éco-poétique. Donc tout d'abord, ces deux domaines viennent de l'épistémocritique, qui est une perspective de recherche reconnue en littérature française et comparée surtout, et qui interroge les rapports de la littérature au savoir en général. Donc la littérature serait influencée par des modèles, des discours et des représentations d'origine scientifique, mais aussi et surtout, elle ne se contente pas d'en subir passivement les effets, ni d'en emprunter les conclusions. Elle y réagit également dans le cadre d'une réception critique et créative. Et donc, après et d'après cette épistémocritique, d'autres perspectives de recherche sont apparues. Donc, on commence à mettre en relation la littérature et la géographie, par exemple, littérature et les sciences humaines, les sciences dures, etc. Et on se demande notamment comment les questions des villes, de l'urbanité, la question des déchets, l'accès à l'eau, tout ce genre de questions peuvent être posées autrement en littérature. Donc on peut se demander quel est le rôle de la littérature dans l'ère anthropocénique, si elle a un rôle, si elle a une place. Et en fait, c'est surtout à partir des années 80 qu'on cesse en littérature de faire du temps un critère général de perception de l'histoire, du récit, etc., pour considérer également l'espace, donc ce qui permet de remettre peut-être en question l'idée d'un progrès pour observer plutôt ses effets dans un milieu donné et dans une perspective plus synchronique. Et on commence aussi à penser qu'il faut arrêter de traiter la nature comme objet exploitable dans la littérature même, mais plutôt tenter de penser une sorte de cohabitation ou de décentrer son point de vue d'un point de vue uniquement humain pour voir la nature comme autre chose qu'un simple objet que l'on perçoit. Donc une littérature de l'environnement naît ainsi, interrogeant les manières de représenter l'homme dans son milieu, la manière également de représenter la terre, de représenter les animaux. Donc là où c'est très important, je pense que c'est important, c'est que ça permet vraiment la littérature permet de montrer un vrai point de vue humain sur les choses, et le fait justement d'essayer de se décentrer de ce point de vue humain permet peut-être de considérer notre rapport aux autres et à la nature autrement. Et donc Alain Subercicot, vous pouvez voir son ouvrage qui est écrit ici, donc dans Littérature et environnement pour une éco-critique comparée, il montre le souci de définir une littérature de l'environnement en dressant donc une liste de ses invariants. Donc on y retrouve la préoccupation éthique, voire une responsabilité civique de la part de l'auteur, la volonté de faire de la littérature un outil outrepassant la science ou éventuellement vulgarisant des outils scientifiques, la défense d'une valeur du vivant, et ou l'imagination consciente d'une suspension des cycles d'équilibre de la Terre. Donc avec notamment, par exemple, cette littérature de fin du monde, cette littérature apocalyptique qui peut apparaître. Et donc la littérature peut servir de témoignage et de réflexion sur l'homme dans son milieu. Et donc l'éco-critique est caractérisée plutôt par un rapprochement entre des études critiques, et c'est donc l'analyse littéraire selon une perspective écologique. Tandis que l'éco-poétique, c'est plutôt donc, les textes, que ce soit en vers, en prose, que ce soit de la fiction ou non. Et donc, tous ces écrits, qui sont écrits avec, via une approche fondée sur le soupçon du point de vue anthropocentré qui inscrirait en creux la domination de l'homme sur la nature. Et donc, l'éco-poétique reconnaît une création poétique de la nature comme une sorte de réponse à des questions environnementales, donc soit par la reproduction de la nature, de son mode de fonctionnement, ou encore du rapport de l'homme à la nature, soit par une tentative justement donc, d'extraction du point de vue humain, anthropocentré, et d'un point de vue utilitaire de la nature pour essayer de considérer les choses un petit peu autrement. Stéphanie Postumus, dans un article intitulé « Penser l'imagination environnementale française sous le signe de la différence », évoque ainsi la crise environnementale comme une crise de l'imagination. Donc, selon elle, le besoin d'imaginer le monde matériel comme autre chose qu'une ressource à épuiser, un espace à dominer ou un produit à consommer se fait pressant et la littérature peut y répondre par, je cite, sa capacité à explorer d'autres mondes possibles, juxtaposer plusieurs rapports différents entre l'homme et le monde, bouleverser le lecteur sans lui donner de réponse, jouer des ressorts de l'ambiguïté et de l'ironie pour affronter la complexité du monde. Donc, selon elle, le pouvoir des textes à émouvoir peut être orienté vers une lecture écologique pour interroger le rapport entre l'homme, son milieu, le non-humain. Elle évoque notamment la littérature qui donc peut brouiller les frontières entre le texte et le réel, ce qui permet donc de bouleverser le rapport entre le lecteur et le monde. Pour la citer encore une fois, c'est justement en explorant la mesure dans laquelle le réel est déjà et toujours un mélange complexe de textuel et de matériel, de naturel et de culturel, que la littérature révèle son pouvoir de nous faire voir des mondes non soumis à la rationalité scientifique. En enrichissant et subvertissant notre imagination environnementale, la littérature, qu'elle soit poésie ou prose, fiction ou non, ayant un parti pris politique, écologique ou non, permet donc de questionner nos modes de vie et notre relation à la Terre. On peut peut-être s'intéresser plus particulièrement aux romans d'anticipation et de science-fiction le genre dit apocalyptique, ou alors on peut aussi parler d'éco-fiction, qui nous fait ainsi réfléchir au sort de l'humanité, donc notamment en explorant les potentialités d'avenir et en poussant à l'extrême certaines de nos logiques ou de nos modes de vie présents. Donc ils permettent de réfléchir aux dogmes basés sur l'optimisation et la compétitivité, et donc de se demander quelles alternatives politiques se dessinent quand on considère la sous-optimalité du vivant comme un modèle qui peut être appliqué aux organisations collectives, donc à la société, à l'organisation politique. Ils permettent notamment donc d'explorer des potentialités nouvelles, donc d'envisager des nouvelles modalités de distribution des ressources et par conséquent du pouvoir, et surtout de sonder les fondements de notre potentiel d'action face à la crise écologique. Ça part donc du constat global que l'humanité dans l'anthropocène et la technosphère est fascinée par le pouvoir du progrès, par l'utilité, par l'optimisation du temps. Et les logiques d'une civilisation basée sur la technologie semblent progressivement s'introduire dans tous les domaines de notre vie quotidienne, qu'il s'agisse de l'exploitation de l'énergie, de la construction d'armes de destruction toujours plus importantes, donc ce qui révèle un certain paradoxe, puisque à vouloir optimiser tous nos outils jusqu'aux armes, on optimise aussi nos capacités de nous autodétruire. Sur la surveillance individuelle, sur l'éducation qui se base de plus en plus sur des connaissances internet et empêche ainsi les gens de penser par eux-mêmes, également dans le domaine de la sécurité. Donc on baigne dans tout cela, et la littérature représentant ces logiques en soulignant les faiblesses, les contradictions et les impossibilités sur le long terme nous permet donc d'en prendre davantage conscience. Donc généralement, la littérature n'apporte pas de solution. Elle ne dit pas l'état du monde est ainsi, donc il faut faire cela pour changer. Ça, c'est plutôt le travail des manifestes politiques ou éventuellement des romans à thèse. Mais ce qui est intéressant avec la littérature de façon plus globale, c'est justement sa capacité à nous faire réfléchir et donc à tenter de nous faire trouver des solutions par nous-mêmes plutôt que de nous en imposer. Donc on peut ainsi penser à certains romans d'anticipation comme Ravage de René Barjavel, comme Le meilleur des mondes de Huxley, de 1984 de Orwell, ou encore Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, tous ces romans. Bon, je les cite un peu arbitrairement, il y en a beaucoup d'autres. Mais... Donc en fait, ils mettent en scène des sociétés dystopiques. Donc dans le premier, parce que toute technologie cesse complètement de fonctionner et les hommes se retrouvent totalement démunis. Donc ça peut rejoindre peut-être ce que disait Camilla tout à l'heure et vos interrogations sur en quoi finalement le fait qu'on se repose sur l'intelligence artificielle est un problème de sous-optimalité. C'est peut-être aussi parce que tout simplement si un jour on ne peut plus se reposer dessus, si ça cesse de fonctionner ou quoi que ce soit, on se retrouve démunis dans la nature, on va dire. Voilà. Donc après, dans les autres romans, Le meilleur des mondes, etc., c'est surtout des systèmes politiques totalitaires qui contrôlent donc totalement la vie privée et publique des individus, en les empêchant de penser par eux-mêmes et en les rendant totalement dépendants des structures sociales, politiques, technologiques et même mentales qui les englobent. Donc aucun de ces romans ne prône clairement la sous-optimalité comme solution, mais pourtant ils invitent tous à leur façon à remettre en question toutes les structures suroptimales qui nous entourent et qui médient totalement notre pensée, notre rapport à l'autre, à la différence, à l'animal, à la terre. Pour donner un exemple un peu plus concret, pour développer un exemple un peu plus concret de tout ça, je voulais m'intéresser à La Nuit des Temps de Barjavel, donc qui est peut-être un peu moins connu que Ravage, mais je trouvais que ça collait assez bien justement avec cette thématique de la sous-optimalité. Donc parce que donc La Nuit des Temps permet de se demander comment une société suroptimale sur le plan politique, économique, écologique et même sentimental mène peut-être inévitablement à sa fin. Donc c'est un roman de science-fiction de René Barjavel qui a été publié en 1968. Et donc ça raconte l'histoire de scientifiques français qui sont en Antarctique et qui découvrent l'émission d'un signal sous la glace. Donc une expédition rassemblant de nombreuses nations est organisée pour atteindre le point d'émission de ce signal. Et cette expédition internationale découvre les ruines d'une civilisation disparue il y a 900 000 ans. Et donc les scientifiques du monde entier affluent vers le site pour aider à l'explorer, à le comprendre. Et donc les explorateurs découvrent une sorte de sphère en or dans laquelle se trouve en état de biostase, donc une espèce d'arrêt réversible de la vie, une sorte d'état d'hibernation, donc les corps d'un homme et d'une femme dont les têtes sont recouvertes de casques d'or qui masquent leur visage. Et donc un des personnages principaux qui s'appelle Simon et qui est un médecin qui fait partie de l'expédition scientifique décide avec ses collègues de procéder au réveil des corps en commençant par celui de la femme parce que les scientifiques tâtonnent un peu sur la méthode de réveil et que le corps de l'homme est plein de blessures, tout ça, donc ils préfèrent diminuer les risques et commencer par la femme. Donc la femme est tirée de son sommeil, elle dit s'appeler Eléa, et grâce à une machine imposée sur son front, elle transmet tous les éléments de sa mémoire et donc ses souvenirs relatent toute l'histoire de son monde et puis donc également son histoire personnelle, celle de son compagnon qui s'appelle Paikan et la guerre qui a détruit sa civilisation. Donc il vivait il y a 900 000 ans dans une civilisation bien plus avancée que la nôtre, qui s'appelait Gondawa. Et ils exploitaient l'énergie universelle qui leur apportait tout ce qui était nécessaire à leur confort, mais qui leur a également permis de créer l'arme solaire, donc l'arme qui détruisit toutes les civilisations existantes. Et donc dans le système de Gondawa, des machines suivent et estiment les personnalités de chaque individu. Elles permettent de révéler facilement les affinités et les potentialités de chacun en ce qui concerne le travail, par exemple, mais aussi la vie sentimentale, donc en optimisant les rencontres entre les individus, en destinant les personnes les unes aux autres en fonction de leur caractère. Et les couples formés sont ainsi certains de s'entendre à merveille et de s'aimer profondément, comme c'est le cas pour Eléa, la femme réveillée, et son compagnon, Paikan. Donc, or, ce système suroptimal semble ainsi considérer chaque être humain comme un élément prévisible et imperfectible. À force de tout optimiser, les failles humaines, les décisions individuelles sont complètement oubliées. Et c'est alors ce qui mène le monde à sa perte, puisque dans un système où tout est optimisé et uniformisé, la moindre faille fait tout s'écrouler. Donc, ainsi, alors que la fin du monde d'Eléa était proche à cause justement de cette guerre et de l'utilisation de l'arme solaire, etc., et afin de donner un avenir à cette civilisation, quelques scientifiques d'alors, donc notamment le meilleur d'entre eux, Coban, avaient décidé de mettre en état d'hibernation un homme et une femme possédant les critères intellectuels et physiques optimum. Donc Coban avait été choisi ainsi qu'Eléa, donc, mais contre son gré parce qu'elle ne pouvait pas supporter, d'être séparée de son compagnon. Et elle s'était alors enfuie avec lui, mais finalement il avait réussi à la ramener, etc. Et bref, ce choix de deux survivants était ainsi fait pour optimiser les chances de voir renaître l'humanité. Donc un homme et une femme, les plus intelligents et les plus beaux et les plus cultivés possibles, sont sélectionnés. Or, cela amène à une première catastrophe, puisque lorsque le médecin Simon et ses collègues décident de réveiller l'homme, qui a besoin d'une transfusion sanguine à cause de ses blessures, Eléa lui donne de son sang, mais en fait, elle décide de s'empoisonner et donc de se tuer et de le tuer avec elle. Parce qu'elle le juge responsable de son malheur, comme c'est le scientifique qui avait voulu la mettre, elle, en hibernation, etc. Et donc les deux survivants de cette civilisation s'éteignent justement à cause de cette suroptimalité, de cette volonté d'optimiser les chances de faire renaître une civilisation. Donc, or, ne pouvant se résigner à vivre sans Eléa. Balkan, en fait, avait tué le scientifique Coban et avait pris sa place dans la sphère d'hibernation. Donc, en fait, Eléa a tué son compagnon en même temps qu'elle-même. Et donc, c'est en fait la deuxième conséquence, on va dire, mauvaise conséquence de cette volonté de tout optimiser dans cette civilisation. Et donc, en refaisant peut-être cette histoire, on pourrait penser qu'un système moins optimal aurait laissé place à des choix moins radicaux de la part d'Eléa, puisque c'est sa croyance en une destinée avec Paikan qui l'amène à refuser de façon radicale les nouvelles possibilités de vie qui s'offrent à elle et qui l'amène à tuer et à se tuer. On peut aussi penser que c'est cette sélection non naturelle et optimisée de deux êtres humains destinés à l'état de biostase qui mène finalement à leur perte. Et donc ce roman représente une civilisation dans laquelle il y a une absence totale des principes actifs dans l'évolution, donc la lenteur, l'aléatoire, l'hétérogénéité, l'inefficacité individuelle, qui sont donc à la base des capacités d'adaptation des systèmes organiques dont on a déjà parlé avant. Et enfin, le récit de cette civilisation optimisée fait écho à la nôtre, puisque le récit fait constamment le parallèle entre le monde contemporain et celui d'Eléa, donc le monde contemporain qui se situe en 1968, donc lorsque le roman a été écrit. Et donc la destruction de leur civilisation due à une guerre menée avec des armes radicales est le résultat d'une société trop optimisée et d'un système politique et militaire pensé sans faille. Et 900 000 ans après, les hommes sont décrits comme étant finalement les mêmes, se faisant la guerre pour des raisons suspectes, avec des civilisations plus ou moins évoluées, qui ne prennent pas en charge les plus faibles, ou alors qui délaissent ceux qui ne veulent pas entrer dans le moule. Avec également une détermination de plus en plus importante de la vie de chacun par le système de société dans lequel il vit jusqu'à cette destruction finale. Je trouvais intéressant aussi que ce roman ne soit pas vraiment un roman d'anticipation, puisqu'en présentant une civilisation ancestrale qui nous précède et en faisant le lien avec notre société moderne, il permet de réfléchir à une sorte d'éternelle reproduction des comportements humains. Par exemple, donc la société présente qui est décrite, est décrite comme déjà avancée technologiquement, avec également des relations internationales tendues, donc ce qui fait vraiment écho à ce qui s'était passé précédemment, enfin, la civilisation d'Eléa, etc. Cette étendue des civilisations sur le temps long, donc étant donné que ça parle d'une civilisation qui existait il y a 900 000 ans, que ça fait lien avec notre civilisation actuelle et que ça permet d'envisager peut-être les conséquences d'avenir de nos modes de vie actuels, ça permet donc de considérer l'humanité à une échelle très globale qui dépasse peut-être l'ère anthropocénique pour s'étendre avant et après nous. Et donc cette pensée dans le temps long peut par exemple être illustrée par cette citation que j'ai mis avec, et en fait c'est un scientifique américain de l'expédition qui la prononce dans le roman. Ils sont repartis d'au-dessous du barreau le plus bas de l'échelle, et ils ont refait toute la grimpette, ils sont retombés en route, ils ont remonté encore, et retombé, et obstinés et têtus, le nez en l'air, ils recommençaient toujours à grimper, et j'irai jusqu'en haut, et plus haut encore, dans les étoiles, et voilà, ils sont là, ils sont nous. Ils ont repeuplé le monde, et ils sont aussi cons qu'avant, et prêts à faire de nouveau sauter la baraque. C'est pas beau ça, c'est l'homme. Donc cette métaphore du progrès comme une échelle de laquelle on pourrait tomber sans cesse me semble bien illustrer les risques réels que représente cette volonté de pousser le progrès à une optimisation sur le long terme. Pour conclure, donc plutôt que de convaincre le lecteur de vivre autrement, de façon plus écologique, les romans, de façon générale, ou la littérature, obligent les lecteurs à réfléchir sur la difficulté de trancher sur la question de ce que doit faire l'humain face aux problèmes écologiques. Et c'est peut-être aussi de la rencontre entre le texte et le lecteur que naît une nouvelle conscience du monde comme autre chose qu'une ressource à exploiter. Et beaucoup de travaux littéraires présentent ainsi des univers plus ou moins réalistes dans un temps plus ou moins long où aucune place n'est laissée à l'aléatoire ni au risque, rendant tout imprévu fatal au système global. Cela génère de la frustration, une profonde dépendance à la technologie, ça nous déconnecte de nos sentiments profonds pour laisser place à une structure qui nous englobe, etc. Et donc la littérature d'anticipation, l'éco-poétique ou l'éco-critique, invite ainsi à repenser notre façon de considérer le temps. Ça nous invite aussi à penser l'humanité à grande échelle en nous faisant prendre conscience peut-être des limites temporelles de sociétés suroptimales et de leurs limites, de leur impossibilité sur le long terme.
Merci. Est-ce que tu as des questions, Sandra?
Non, peut-être juste des commentaires, effectivement. Non, c'est, pour moi, c'est assez évident que les dystopies, les uchronies, tout ce champ de la littérature et même artistique, de manière plus générale, parce que c'est vrai que c'est, nous, c'est, enfin, c'est, cette culture-là est très proche de ce qu'on retrouve dans le champ de l'art, en fait, et a beaucoup imprégné, en fait, le champ de l'art contemporain. Et c'est vrai que c'est, je pense que c'est quelque chose qui nous touche tous. Philippe Cadic, Ballard, des gens comme ça aussi qui ont beaucoup influencé. Et c'est vrai que les romanciers ont été les premiers, enfin pas les premiers, mais ils ont toujours été des lanceurs d'alerte en fait. Et c'est vrai que la littérature d'anticipation a ce mérite de nous projeter dans des dystopies qui sont presque plus des dystopies maintenant. Avec Black Mirror aussi, peut-être, dont tu vas parler tout à l'heure. Voilà, donc c'est...
Oui, puis finalement, peut-être que ça se rapproche aussi de ce que vous disiez avec le Club de Rome et leurs prévisions. Au final, c'est un peu dans la même lignée de prévenir, de faire des hypothèses et de voir si ça se réalise.
Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment, à un moment donné, je m'étais intéressée à la prospective, en fait, enfin, la discipline qui est la prospective, qui est une espèce d'anticipation à la française, en fait. Et donc, il existe des cercles de prospective partout dans le monde. C'est des espèces de think tank, alors cabinet de réflexion, on appelle ça plutôt en français, quoi. Et c'est intéressant de voir comment ils travaillent, en fait. Et en France, c'est très lié à une relation à l'économie. Donc, en fait, ils dépassent peu, en fait, finalement, les cadres réels de projection, en fait. Alors qu'aux États-Unis, ils sont vraiment justement dans ce rapport d'anticipation et de d'utopie ou de dystopie, en fait. Et du coup, ils font éclater les cadres. Ils disent, bon, ben voilà, on a open bar, on a tout l'argent du monde et on peut faire exploser. Et c'est fou de voir à quel point, les gens aujourd'hui pensent, en fait, des modèles de société à partir de modèles qui existent dans la littérature d'anticipation. Et en mettant de côté bien soigneusement quand même tout ce qui est dystopique, hein, et en allant plutôt vers des sociétés de type optimisé. Et là où la réalité rejoint la fiction, c'est que par exemple, quand on voit les nouveaux projets urbains qui sont en train de se développer, notamment autour du Grand Paris, on retrouve des modèles en fait de sociétés qu'on déplace partout, à l'échelle plutôt des modèles mondiaux en fait, de sociétés mondes qu'on déplace à l'échelle de la société. Et on reproduit en fait ce qu'on sait faire. On reproduit une espèce de micro-ville, enfin de ville où on aurait un centre d'art, un mall, des espaces alternatifs, des jardins partagés. Et en fait, on reproduit toujours ça, comme une espèce d'organe cellulaire. Et en fait, on reproduit du coup des erreurs, parce qu'on sait que ce n'est pas viable à long terme en fait. Et c'est vrai que c'est assez fou, je trouve, de voir de voir à quel point en fait l'art de manière générale nous met quand même face à des situations d'alerte et qui finalement ne se retrouve peu en fait au champ politique des décideurs parce que finalement les consultations sont pas du tout menées à terme en fait on consulte plus ou moins les habitants et puis après les habitants aussi c'est pareil en fait ils réagissent par rapport à leurs besoins finalement c'est normal, quoi, quand on va demander à quelqu'un de quoi il a besoin, moi je veux une crèche, moi je veux pouvoir jardiner mes trucs. Et enfin voilà, quoi. Et c'est vrai que c'est. Après, ce sera intéressant d'étudier dans chaque dystopie hein, les différents types en fait, de modèles sociétaux qui sont vraiment, mis en place en fait, parce qu'ils sont tous très différents en fait. Et ils correspondent tous à des espèces de peur et de dérive en fait de l'humain au sens général du terme quoi. Donc après il y a le transhumanisme aujourd'hui mais moi j'aime bien particulièrement l'anticipation parce que justement c'est pas la science-fiction et en fait on est vraiment dans des cadres réels en fait. Ça j'aime bien en particulier le Maître du haut château de Philippe Cadic ce point de vue là ou même la bande dessinée Jour J que je te conseille si tu connais pas qui est génial. Qui réécrit l'histoire en partant d'un événement, par exemple, l'attentat sur De Gaulle à Haïti, De Gaulle est mort, etc. Et espèce d'hypothèse comme ça, mais c'est très 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 réaliste en fait. Et donc forcément, ça fait flipper quoi. C'était juste un commentaire.
Parfait.
J'ai peut-être aussi un commentaire, mais sur une contre-réalité, puisque là on parle d'anticipation. Mais si, par exemple, on partirait d'une littérature sous-optimale, par exemple, avec la fantaisie, avec cette espèce de retour en arrière complet qui a été impulsé par Tolkien, qui a été repris, même au jour d'aujourd'hui, avec R. Martin, Game of Thrones, tout ça, on reviendrait à quelque chose qui serait beaucoup plus de l'ordre de l'aléatoire, de la lenteur, d'une politique qui reviendrait complètement, en fait, qui repartirait sur une base qui a déjà été vue et revue, donc qui serait une espèce de... C'est ça. Donc il y a aussi ces deux pans de la littérature, en quelque sorte, où on va vers l'anticipation, vers le post-apocalyptique, où là, il y a eu un espèce de temps de définition qui aurait détruit et remis les choses à plat, ou au contraire, c'est justement dans la littérature, ces deux points spécifiques d'accroche, ou quelque chose qui est suroptimal, ou quelque chose qui reviendrait, en quelque sorte, à quelque chose de sous-optimal. Et donc, comment après... dans la littérature, c'est en fait, c'est à peu près éclos en plus au 19e, il me semble, dans les deux cas. Ce qu'il s'agit de durement d'anticipation ou durement de fantaisiste fantastique, même au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas comment appeler ce courant merveilleux qui reviendrait en fait à un état passé et donc qui essaierait de revenir à quelque chose de sous-optimal. Dans les faits, en fait.
Oui, mais tu proposes des mondes parallèles,
exactement.
Alternatifs.
C'est ça. On est vraiment dans quelque chose d'alternatif, mais qui se reconstruirait sur quelque chose qui a été connu et avec des préjugés aussi. Oui.